Jésus quitta le territoire de Tyr, c'est près du Liban, et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira, on parle de Jésus, et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient : Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Qui est cet homme ? On ne nous présente pas sa vie, sa famille. A-t-il une famille ? On nous présente seulement son handicap, surdité, avec une élocution très difficile. C'est un homme qui a une surdité, mais c'est devenu dans notre langage, nous disons, un sourd-muet. Comme s'il n'avait que cela pour vivre, sourd-muet. Donc, ses oreilles sont fermées. On imagine difficilement ce que cela représente. Coupé du monde, coupé des autres, silence complet, pas de relation, isolement affectif total. Pourtant, le Seigneur parle. Et s'il parle, c'est pour être entendu. Une expression biblique dit que le Seigneur a planté l'oreille parce qu'il a à nous parler. Et nous vivons par l'écoute. Nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons les autres, notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents. Et lui est privé de cette écoute vitale. Nous aussi, un peu. Sommes tous un peu sourds. Parce que on ne sait plus écouter. On est devenu insensible aux paroles des autres. Nous ne sommes pas capables de comprendre les appels qu'il nous lance. Nous ne savons plus nous émouvoir aux cris de ceux qui sont autour de nous et qui appellent au secours. Nous sommes un peu sourds. Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Avons-nous des oreilles pour bien entendre autour de nous? Donc on lui amena un sourd. On a l'impression, en lisant l'Évangile, que cet homme n'attend plus rien de la vie. Il se laisse conduire. Il ne saisit pas le vêtement de Jésus, comme cette femme qui avait une perte de sang, qui a saisi le vêtement de Jésus pour être guérie. Il ne supplie pas Jésus. Il ne prie pas. On a l'impression qu'il est blasé. A-t-il encore de l'espoir ? Et plus, une espérance. Il semble, en lisant l'Évangile, qu'il soit passif, replié sur lui-même. Quand on n'entend plus personne, on se replie sur soi-même. Et je comprends le mot de Jésus qui lui dit « Ouvre-toi ». Ouverture aux autres. Ouvre-toi. Mais Jésus ne juge pas nos silences, nos fermetures. Il ne juge pas ce qui fait mal parfois aux autres aussi. Il a donc un double handicap. Il est sourd et littéralement, il souffre pour parler. C'est un souffrant pour parler. Mais Jésus sait écouter ceux qui ne savent plus parler, ceux qui ne parlent jamais, ceux qui souffrent pour communiquer avec les autres. Car cette histoire, c'est une histoire de communication. Il sait écouter. C'est pas facile d'écouter. C'est exigeant d'écouter les autres. Parce que nous sommes envahis par nos propres problèmes, par notre égoïsme, par nos plaisirs. Et pour écouter les autres, il faut un travail intérieurement de détachement. Le disciple, le chrétien, d'après la Bible, il doit écouter. Et écouter, aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça. Dans le mot écouter, il y a le mot obéir. On ne peut pas obéir sans écouter. Et le disciple, s'il écoute, il va obéir à la parole de son Seigneur. Donc le sourd-muet parlait avec souffrance. J'ai connu des personnes semblables qui s'exprimaient avec une peine redoutable. Il habite dans un monde de silence. Aucun chant d'oiseau n'arrive à lui. Aucune parole d'amitié. Aucune parole d'amour. Aucune consolation. Pourtant, écouter, c'est la qualité fondamentale de la vie. Quand on ne sait plus écouter les autres, on va dans un fossé. C'est une qualité fondamentale pour la spiritualité. Dieu commence les 10 commandements en disant « Écoute, Israël, écoute ». Nous entrons en relation avec Dieu non pas par la vue, mais par l'écoute. Et celui qui n'écoute pas, comme cet homme, il devient délaissé, exclu. Il est en monologue. Il n'intéresse plus personne. Il ne parle pas, il n'entend pas. Je connais un homme de la Bible qui a eu un grand malheur, c'est Job. Et je crois qu'il a eu l'épreuve absolue. Disparition de ses enfants, de sa santé, de ses biens, soutien de sa femme. Mais il n'est pas privé de dialogue. Il a l'épreuve totale, mais il y a des amis et sa femme qui lui parlent encore. Il entend encore des paroles de réconfort, parfois de provocation, mais il entend. Car la parole, ce n'est pas que des mots, pas seulement un message, comme un texto. La parole, c'est une voix avec des intonations, un accent, des petits détails, des hésitations, des respirations, des modulations, des chuchotements. La parole, c'est du sentiment, de la variation. Le sourd-muet n'entend plus tout cela. Il n'entend plus ce message qui se joue sur la musique. Il n'entend plus rien. Il est privé de cet outil essentiel pour rester vivant. La parole qui humanise. Dieu nous a créés en parlant. On est fait pour entendre et pour parler. Alors je crois qu'il doit se sentir exclu. Exclu quand il voit des entendants parler entre eux. Il doit se dire, parle-t-il de moi? Se moque-t-il de moi? Que peuvent-ils dire pour rire? Il arrive très souvent que des personnes sourdes soient dépressives, tristes, mélancoliques, méfiantes. Avec la surdité, on peut se détruire. Certains m'ont dit, je ne peux pas juger, je ne peux pas comprendre, qu'ils préfèrent la cécité, être aveugle, plutôt que d'être sourd. On ne peut pas comprendre tout. Donc une personne amène cet homme à Jésus, un parent peut-être, un ami, et il supplie Jésus de faire quelque chose. Est-ce que cet homme commence à espérer? Je ne sais pas. Mais Jésus s'est entré en relation avec ceux qui n'attendent plus rien, avec ceux qui n'entendent plus rien, avec ceux qui ne veulent rien entendre. On m'a souvent dit, en parlant de Jésus, je ne veux rien entendre. Je ferme mes oreilles. Jésus s'est entré en relation avec ceux qui sont hors de la portée des hommes, dans un abîme de solitude. Lui qui voit les vivants et les morts et qui entend nos pensées. On le pria de lui imposer les mains. Que demande-t-il à Jésus ? De le guérir. Et il précise en lui imposant les mains. Mais dans le texte, c'est la main. Impose-lui la main. La main, c'est l'image, dans la Bible, de la puissance de Dieu, de sa miséricorde. Quand Jésus meurt, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains, à l'abri, en sécurité. » Dans l'Évangile, on voit souvent la main de Jésus, sa forte main, sa bonne main, qui peut donner du bien, guérir, délivrer, ressusciter, recréer. Et il le supplie, parce que la souffrance de cet homme, qui n'est pas visible aux yeux toujours, la souffrance ne se voit pas toujours. Il y a des êtres de souffrance qui sont pas vus comme souffrants. La souffrance de cet homme est terrible, psychologique, physique. Et on le supplie. Quand on supplie, cela veut dire que c'est grave. Mais faut-il supplier Jésus? Est-ce qu'une simple prière suffit? Je pense que Jésus n'éprouve pas seulement des sentiments d'amour pour les souffrants. Jésus, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu. C'est l'amour en chair et en os. Jésus représente l'amour total de Dieu. Jésus est le corps de Dieu. Il entre en relation avec les souffrants par son corps. Il se donne avec son corps. Il ressuscite avec son corps. Il représente l'amour qui donne. On le supplie qu'il mette sa main. Et Jésus le prend par la main. Il le conduit à part de la foule. Et là, il met, dit le texte, ses doigts dans les oreilles et il touche sa langue avec sa propre salive. Si Jésus l'emmène loin de la foule, il est encore plus isolé. Mais il est avec Jésus. Parfois, il faut s'écarter un peu du mouvement de la vie pour aller avec Jésus. Et lui se laisse conduire. Il ne dit pas, mais il ne peut rien dire. Mais il ne se débat pas pour dire, mais qu'est-ce que tu me veux ? Il n'a jamais rencontré Jésus. Et il se laisse faire. Sommes-nous capables de faire confiance sans comprendre, sans connaître ? Sommes-nous capables de faire confiance totalement à Jésus dans la vie et à l'heure de la mort ? Ainsi, cet homme se retrouve tout seul, tout proche de Jésus, proche de son regard, de son visage. Il ne sait pas tout ce qu'il va vivre avec Jésus. Et tout ce qu'il va vivre va concourir à son bien. Tous les détails vont le conduire vers son bien. Tous les détails de notre vie, Jésus les tient pour les conduire vers notre bien suprême. Jésus va ressusciter son écoute. Ce sens qui permet la relation, qui permet d'entendre, de s'entendre, de bien s'entendre. Il faut écouter pour bien s'entendre. Il ne va pas seulement devenir un entendant, mais un écoutant. C'est mieux. Cet homme va devenir un écoutant. Il va prêter attention aux autres sur ce qu'ils vont dire. Magnifique. Il était exclu. Il se croyait exclu par une absence totale de relation. Mais nous avons toujours une relation avec l'invisible Dieu. Il sera capable de devenir un homme de la rencontre. Le muet va se transformer en homme de la parole. Le sans-parole, littéralement, enfant, cela veut dire sans-parole. Le sans-parole est appelé par celui qu'on appelle la parole de Dieu. Jésus s'est fait corps, main, pour toucher nos corps, nos oreilles, nos langues brisées. Et Jésus va le toucher, toucher. Jésus, nous l'avons vu dans toutes ces conférences de carême, Jésus sait l'importance du contact avec un homme qui ne peut plus voir, qui ne peut plus entendre. Nous l'avons vu avec l'aveugle de naissance. Et Jésus entre en contact. Il met ses doigts dans les oreilles. Pas très agréable quand on ressent le doigt de quelqu'un. Il crache, il met sa salive sur la langue du muet. Je veux penser que Jésus a fait tous ces gestes avec une grande délicatesse. Parce qu'il y a plusieurs façons de mettre le doigt dans l'oreille ou la salive sur la langue. Mais il fait tous ces gestes sans rien expliquer. Parce que un sourd muet, ça n'entend pas. Il n'explique rien. Mais en touchant son oreille, en touchant sa langue, Jésus montre au sourd muet qu'il va intervenir comme un médecin. Il va intervenir sur ses oreilles et sur sa langue. Et quand le sourd muet ressent le doigt dans l'oreille, la langue qui est touchée, je pense qu'il doit penser à son handicap, c'est obligé. Il va penser à ce qui lui manque. La parole de Jésus nous fait comprendre ce qui nous manque pour pouvoir nous le faire désirer, demander. Il comprend, il est à l'écart, il est loin des sourires moqueurs, il est loin des regards, il n'est pas distrait, il est seul à seul avec le Christ qui lui montre là où il y a besoin, là où il va intervenir. Jésus, avec ses doigts d'homme, touche la partie morte de son corps, l'oreille, la langue, pour les réanimer, les honorer. Jésus a pris chair, corps, pour nous rejoindre dans ce qui était cassé en nous. Il en vient même à faire des gestes que, pardonnez-moi, je qualifie un peu de vulgaire, un peu sale, non ? Entre guillemets. Mettre sa salive sur la langue de quelqu'un, je ne vous le ferai pas. Mettre sa salive dans la bouche de quelqu'un, aujourd'hui on fait attention à la contagion. Comme avec l'aveugle de naissance, Jésus sait qu'il faut tout cela pour que le sourd-muet se sente rejoint. Il ne faut pas passer au-dessus. Il faut qu'il se sente rejoint, pris en main, touché dans sa souffrance, là où il a mal. C'est la pédagogie de Jésus. Ce sont des petits gestes qu'il nous faut accueillir. Mais ces petits gestes de Jésus nous éveillent à l'espérance. Ils touchent là où nous avons mal. Dans notre foyer, avec nos enfants, dans notre travail, sa parole touche et balaie toute la vie. Le sourd-muet, en sentant les doigts dans la bouche, dans l'oreille, il a dû penser, c'est magnifique, un médecin pense à moi. Un thérapeute s'intéresse à moi. Mais Jésus a-t-il un pouvoir dans sa main ? Mais Jésus a-t-il un pouvoir dans sa salive ? Ça fait plusieurs fois que je le vois dans la Bible prendre sa salive. Non, c'est son amour qui est tout puissant. Le reste ne sont que des signes. Il nous fait signe, mais c'est son amour qui est agissant et non pas le signe. Je vois ici que Jésus implique son corps pour nous sauver. Il s'implique avec son corps physiquement et il s'impliquera jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est donné avec son corps pour nous permettre d'écouter Dieu et de parler à Dieu, de renouer la relation perdue depuis le commencement, qui nous laisse dans le silence, dans l'obscurité, dans le non-sens, dans l'inquiétude. Il renoue la relation en ouvrant les oreilles du cœur et les yeux du cœur. Jésus ainsi nous soigne, nous ramène à la vie, redonne une valeur au corps, une noblesse, une beauté. Tous nos sens ont de l'importance. Toute notre vie, chaque jour, chaque instant, a du sens. Puis, l'Évangile nous dit, levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Il lève les yeux au ciel, Jésus. Et le sourd-muet, il ne comprend pas, mais il voit. Et Jésus montre une autre direction. une autre direction que sa solitude. Il monte l'en haut. Il lève les yeux au ciel. Et Jésus prie. Il n'entend pas. Mais son regard est entraîné vers le haut, dans un face-à-face avec Dieu. Aucun handicap, aucun péché ne peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Dieu est ouvert à tout être humain, quel qu'il soit, qui se tourne vers lui. Le sourd-muet reçoit vraiment ce langage des signes. Ce jour-là, je crois que Jésus a inauguré la langue des signes. Il touche, il montre. Et le sourd-muet s'abandonne. Il ne réplique pas à ce langage. Jésus lève les yeux. Quelle va être la prière de Jésus, puisque le sourd-muet n'entend pas? La Bible dit « Jésus soupire ». Mais le verbe en grec exact, dans la langue du Nouveau Testament, « Jésus gémit ». Je sais que ce mot gêne parfois. On dit « Mais Jésus ne peut pas gémir ». Jésus, il sait ce qu'il dit. Eh bien non. Dans l'Évangile, c'est « Jésus gémit ». Il n'a pas eu honte de gémir devant un païen, devant un sourd-muet qu'il ne connaît pas. Parce que ce sourd-muet qui souffre pour parler, il n'a pas de mots, il n'a pas d'expression, il n'a que des gémissements. Ce sourd-muet, il s'exprime avec des gémissements. Et Jésus, en priant, il prend le même langage, le gémissement, que Dieu entend. Nous avons ce beau texte dans le livre de l'Exode. Dieu dit « J'ai entendu les gémissements de mon peuple qui est en Égypte, au temps de Moïse. J'ai entendu sa souffrance, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. J'ai entendu les gémissements. » L'apôtre Paul dit que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas que ce sourd-muet, c'est toute la création humaine, la création animale, la création cosmique, tout, tout souffre et attend autre chose. Combien de malades n'en sont qu'au gémissement? Combien de déprimés n'ont que des gémissements pour prier, n'ont plus les mots. Mais Dieu a l'oreille fine. Il entend, dira le psaume 102, il entend le gémissement du prisonnier dans son cachot. Assez profond. Personne ne peut l'entendre. Il est à 30 mètres sous terre. Il est enfermé, il a des gémissements, et le psaume dit « Dieu les entend ». L'apôtre Paul dit « Mais nous aussi, nous soupirons, nous gémissons en nous-mêmes, parce que nous avons un enfant qui va mal, la santé qui défaille, nous soupirons, nous gémissons. » Le sourd-muet donc voit Jésus gémir en priant. Et cela se voit, parce que cet handicap, quand quelqu'un veut parler, il a des crispations, je ne veux pas dire des grimaces, mais des crispations sur son visage, ça se voit. Et Jésus, il avait ces gémissements visibles, et le sourd-muet voit, il se reconnaît, il dit « il est comme moi ». Parce que le sourd-muet, quand il veut parler, il n'a qu'une série de gémissements incompréhensibles. On les voit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Cela me permet de vous dire que Jésus a rejoint le sourd-muet dans sa souffrance, dans sa pauvreté de langage, dans l'expression de sa souffrance. C'est l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui vient dans l'en bas et qui entre là où personne semble pouvoir entrer, se fait tout à tous. Il souffre avec nous, pour nous, comme nous. Jésus gémit de souffrance comme le sourd-muet, avec lui, pour lui. Voilà la compassion de Jésus. L'amour de Jésus gémit. L'amour de Jésus gémit. Espérons en lui. L'espérance se reçoit ainsi, par des gestes de Jésus, des petits gestes de la vie, les petits miracles de la vie. L'espérance se reçoit par des paroles de Jésus, qui éveille le cœur, qui ouvre le cœur. Et ces gestes et ces paroles que nous recevons nous donnent une lumière d'espérance. Ephphatha, lui dit Jésus, en araméen, c'était sa langue. Ephphatha, ouvre-toi. À qui parle-t-il? À quoi parle-t-il? Ne parle pas aux oreilles, ne parle pas à la langue, il parle à l'être profond, intérieur. Parce que quand Dieu parle, les morts peuvent entendre, les sourds peuvent entendre. Ephphatha, il y a deux sens. Ça veut dire « sois ouvert, j'ouvre ton âme ». J'ouvre ta vie. Mais ça veut dire aussi ouvre-toi. Tu dois faire quelque chose. Tu dois me donner ton consentement, ton accueil, ta foi. Eh bien, il a fallu que le sourd-muet accueille donc cette nouvelle vie. C'est pas si simple que ça. Parce que ce sourd-muet, depuis son enfance, il a dû tourner la page de son handicap. Parce que sa vie, elle s'était organisée dans son handicap. Il avait des habitudes. Tout à coup, ça va changer. Je me souviens, il y a bien des années de cela, il y avait un enfant qui avait fait la une à la télévision, que l'on a dû mettre dans une bulle stérile parce qu'il était malade, et quand on l'a sorti de sa bulle, cherchait partout la bulle. Il n'y avait plus rien, mais il voulait tout toucher à la bulle. C'était sa nature. Et cet homme, voyez-vous, le privé de sa bulle, le privé de son monde, de ses habitudes, ça peut être déstabilisant. Seul Jésus peut guérir sans provoquer de traumatisme, sans provoquer de dégâts psychiques. Seul Jésus nous amène dans la vraie vie. Mais fallait-il vraiment toucher ses oreilles ? Fallait-il vraiment mettre de la salive sur sa langue alors que Jésus a une parole qui agit comme au jour de la Genèse, que la lumière soit, la lumière fut? Mais le sourd-muet n'a pas besoin seulement d'entendre ou de parler, il a besoin d'un message de Jésus, pas d'une guérison à la sauvette. Et Jésus va le conduire vers ce message. Et Jésus va s'adapter à sa vie. Il va s'adapter à cet homme. Jésus s'est adapté à nous. Il a pris notre langage. Il a pris notre faiblesse, il a penché son oreille vers nous et il s'est mis à l'écoute des plus faibles, des plus pauvres. Jésus, dans l'incarnation, s'est diminué. Il s'est abaissé à nos faiblesses. Parce que la découverte du Christ passe par une rencontre avec le Christ. Pas seulement guérir et dire après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça va mieux. La vraie vie passe par une rencontre, entendre un message, connaître celui qui est venu de Dieu. Tous ces signes, donc, éveillent son espérance. Laisse passer l'amour de Dieu. Il se sent valorisé. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla bien. L'Évangile dit exactement, il parla droit. Ortho, en grec ça veut dire orthopédiste, orthophonie, orthographe, droit. Il parla droit vers le haut, parce que le mot est précis, comme s'il reconnaissait que Jésus était l'envoyé de Dieu. Il parla droit. Le sourd muet, c'est nous. Il y a un silence oppressant que nous masquons par, comme disait Pascal, beaucoup de divertissements, beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Mais il y a un silence dans nos vies. Nous n'entendons plus Dieu, ou peu, ou mal. Nous ne parlons plus à Dieu. Nous ne savons plus lui parler. Et quand on ne parle plus à Dieu, tout semble difficile. Nous sommes meurtris de ne pas parler à Dieu. Notre vie a perdu un peu de sa vigueur. Elle a perdu un peu d'elle-même. Comme les glaciers des montagnes du Pérou qui subissent le réchauffement climatique et qui tombent de la montagne. Ils ont perdu un peu d'eux-mêmes et qui tombent dans des lacs. Et les lacs débordent avec des tsunamis qui engloutissent des villages entiers. Le glacier perd de sa force, de ce qu'il est. Je pense que nous, en nous éloignant de Dieu, nous perdons, nous diminuons. Mais Jésus nous dit, je vais conclure, « Ephphatha, Jésus t'ouvre à Dieu, ouvre-toi aussi. Ouvre-toi à la lumière qui traverse les murs les plus épais. Regardez cet homme qui est dans le silence complet. Il perçoit un appel à travers des gestes silencieux. Jésus sait nous parler. Voilà l'œuvre du Sauveur, mes amis, qui nous remet en relation avec Dieu et avec les autres, qui nous fait entendre la voix de Dieu et qui nous fait parler à Dieu parce qu'il a ôté l'obstacle. Ephphatha, ouvre-toi. Amen.